Les titres du journal.
Montreux veut miser sur l'énergie du Léman pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La commune a choisi Romand d'Énergie pour réaliser et exploiter un réseau thermique. La Tour de Paix aura son propre marché hebdomadaire, ceci à partir du mois de septembre. La municipalité a donné son aval il y a environ un mois, tout comme à Vevey, ce marché aura lieu le samedi matin. La Suisse tient sa 13e médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle est venue cette nuit du beach volley. En course à pied, la 13e édition de la Glacier 3000 Run est prévue demain, tout comme l'épreuve élite de Sierre-Zinal. Et dans ce journal, on terminera également notre série de carnets de route à Tokyo avec le Tsino Pierre Ducret qui est au JO.
Et pour la météo, après le soleil de cet après-midi, on attend une nouvelle dégradation pour samedi après-midi. Et si. On en parlera en tout cas plus complètement après le journal. Le journal de la mi-journée avec Joël Espier. Bonjour Joël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Montreux se lance dans un nouveau projet pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La commune mise sur le Léman. L'objectif est d'utiliser l'eau du lac pour refroidir ou réchauffer les bâtiments connectés au système. Ce réseau thermique qui utilise une station de pompage implantée vers le centre des congrès desservirait les habitations situées au-dessus de la voie CFF à Montreux et Clarens. Une démarche qui fait du sens, d'après Caleb Balter, le municipal chargé du dossier.
Ah, je crois que malheureusement, on n'a pas le bon son, Joël. Je suis désolé. Oui, on a le mauvais son. On était censé avoir celui de midi. Et malheureusement, on parle de politique.
Donc, bon, c'est bien aussi.
Ça va aussi. Alors, on y va.
On a déjà le label Gold aux cités d'énergie. Et là, on a preuve à l'appui, un levier important pour améliorer le bilan global. On a la chance d'avoir une zone qui est fortement habitée, avec des hôtels, des immeubles notamment. Donc c'est important. Et politiquement, pourquoi ça l'est ? Parce qu'on veut offrir des solutions pour que les citoyennes et les citoyens puissent elles-mêmes s'engager dans l'amélioration du bilan énergétique. Donc c'est vraiment une grosse structure qui exige qu'on se mette tous ensemble, et c'est ce que la commune peut faire pour qu'ensuite les particuliers puissent se connecter à ce réseau et puis bénéficier de ses prestations.
Voilà, on reste dans le même sujet malgré tout. Pour l'instant, la commune doit discuter des modalités de partenariat avec Romand d'Énergie, qui a gagné le mandat de réaliser et d'exploiter ce réseau thermique. Le fruit de ce compromis sera présenté au conseil communal, normalement avant la fin de l'année. Un sujet de Margot Reguin. En Valais, l'avant-projet de constitution a été publié. Il sera traité par le plénum en première lecture dès le mois de septembre prochain. Il est accompagné de 10 rapports explicatifs élaborés par les commissions thématiques durant ce dernier printemps. Les documents sont disponibles sur le site internet de la constituante.
Dès le mois de septembre, un marché hebdomadaire s'installera à la Tour de Paix.
La municipalité Boëlande a donné son accord au projet de François Baudot, fleuriste et membre du conseil communal. Situé sur la place piétonne des anciens fossés, ce marché aura lieu les samedis matins, tout comme à Vevey. D'aucuns pourraient y voir une forme de concurrence. Ce n'est pas l'avis de François Baudot. Il est président de l'association des marchands du marché de la Tour de Paix.
Je ne pense pas qu'il y ait une concurrence, une complémentarité. Mais ce sera une complémentarité saine. Je ne pense pas qu'on va comparer. On sera différents. On a chaque marché de Vevey une identité. Nous, on aura notre propre identité. Et je pense que la population fera son choix.
D'ailleurs, il y a très peu de marchands de Vevey qui sont venus à la Tour.
Alors, c'était un peu une condition aussi de la municipalité de la Tour, de ne pas dépouiller le marché de Vevey. Chose qu'on a respectée évidemment, il y aura 5 marchands de Vevey qui viendront à la Tour de Paix. Sinon, c'est que des nouveaux marchands.
Puis alors, pour les trouver justement, ces marchands, comment ça s'est passé? C'était pas spécialement facile.
Alors, le plus dur, c'était de trouver des locomotives. Les locomotives sont les bouchers, fromagers qui disposent de camions. Et ça, c'était le plus dur à trouver, mais on a trouvé vraiment des bons marchands. C'était très important pour nous de trouver la qualité, un peu de quantité, parce qu'on est quand même 40, mais c'est surtout trouver la qualité.
François Vaudot au micro de Quentin Fray. Les premières ébauches d'un marché boëland le samedi matin datent de la fête des vignerons 2019. Pour laisser la place à la reine de la Févie, le marché s'était délocalisé à la Tour de Paix et de nombreux commerçants y avaient trouvé leur compte. Le GPS du manoir de la ville de Martigny accueille du 12 août au 28 septembre un projet du collectif Femmes Valais. Cette exposition présente le processus de création du jeu de cartes des 7 familles intitulé « Et si j'étais ?», dont la sortie est prévue cet automne. Ce projet met en lumière des figures de femmes suisses romandes d'hier et d'aujourd'hui. Elles marquent par leur art, leur engagement, leur découverte, leur action. Parfois, elles suivent ou ont suivi le chemin qui leur convenait sans nécessairement se conformer à la norme. Cet artiste romande a illustré ses portraits de femmes au parcours riche et varié. Deux hommes ont été blessés à l'aide d'objets tranchants, dont un grièvement, lors d'une altercation dans un appartement à Estavayer-le-Lac, dans le canton de Fribourg. Deux autres protagonistes ont été interpellés par la police après avoir quitté les lieux. Les circonstances exactes de cette rixe ne sont pas encore établies. Les autorités jurassiennes sont inquiètes. Le canton connaît une recrudescence des contaminations de Covid-19. Le gouvernement ne parle pas à ce jour de cluster, mais relève que des liens ont été clairement établis entre un certain nombre de cas et des manifestations comme des camps de jeunesse ou la fête du 1er août à Boncourt. Depuis le début de la semaine, pas moins de 50 cas positifs ont été enregistrés. Alors que la couverture vaccinale est considérée comme insuffisante, 50% de la population jurassienne est vaccinée au moins une fois. Une campagne de prospection du sous-sol de la côte démarrera lundi. D'une durée de 3 semaines, elle a pour but de mesurer avec précision le potentiel des ressources géothermiques dans une trentaine de communes des districts de Morges et de Nyon. Dans le cadre de ce projet baptisé Energéo la côte, les mesures géophysiques seront réalisées à l'aide de 3 camions vibreurs. La campagne de prospection sera effectuée de nuit afin d'éviter au maximum les ondes parasites qui pourraient survenir en journée, annonce Energéo aujourd'hui dans un communiqué.
Ça va, Joël? Il y a des mots qui sont plus difficiles que d'autres.
Oui, non, mais j'essaie de... Energéo. Enfin, en fait, en français, on devrait dire Energéo, mais je pense que c'est un jeu de mots. Alors, voilà, ils n'ont pas mis d'accent au E. Du coup, je me marre un peu. Désolé. Alors...
Est-ce qu'on va arriver au bout de ce journal de midi? On ne sait pas.
Je sais pas. Il y a de la rame, Julien, aux Jeux Olympiques, parce que moi, je dois sortir les miennes, là. À l'étranger, CNN a annoncé... CNN a annoncé hier à son personnel que 3 salariés avaient été licenciés pour avoir enfreint la politique sanitaire de la chaîne. Selon les médias américains, les salariés étaient venus travailler sans être vaccinés contre le Covid-19. La chaîne avait mis en place un système basé sur la confiance, exigeant que les salariés ne se fassent vacciner, mais sans qu'ils aient en apporté la preuve. Mais cela pourrait changer à l'avenir. Le vaccin est obligatoire pour toute personne travaillant sur le terrain, en contact avec d'autres employés ou en présentiel dans les bureaux de la chaîne d'information.
Le gouvernement italien a rendu obligatoire le pass sanitaire également pour les enseignants.
Et le document sera également nécessaire pour les usagers des transports publics, dont les vols intérieurs, les ferries et les lignes de train longue distance, ainsi que pour les clients des restaurants. Le pass vert italien, qui prouve que son détenteur a été vacciné avec au moins une dose, est une extension du certificat Covid numérique de l'Union européenne. Il sera obligatoire donc dès aujourd'hui pour entrer dans les cinémas, les musées, les salles de sport, ou encore pour manger au restaurant à l'intérieur de l'établissement.
Respirez un bon coup, Joël.
On est bientôt au sport, ce sera Julien Traxel de parler dans 30 secondes. La situation se tend au Moyen-Orient. Plus de 10 roquettes ont été tirées aujourd'hui du Liban vers Israël, a indiqué l'armée israélienne. Ceci 2 jours après un incident similaire auquel l'aviation de l'État hébreu avait répliqué en menant des frappes sur le sol libanais pour la première fois depuis des années. Israël a à nouveau lancé des tirs sur le Liban aujourd'hui.
On va y arriver.
Alors, 13e méda suisse, aujourd'hui, qui s'est fait attendre aux JO olympiques, aux Jeux olympiques de Tokyo, pardon, mais elle a fini par tomber, cette 13e médaille, renversée dans la petite finale du tournoi de beach volley. Johanna Heinrich et Anouk Vergé-Després ont trouvé les ressources pour se parer de bronze, une intraxelle. On y revient sur ce match avec vous. Je vous laisse le micro et je vais aller me prendre un café, je crois.
Eh oui, la Zurichoise et la Bernoise ont rapidement digéré leur lourd revers concédé hier en demi-finale. 24 heures après avoir subi la loi des futures championnes olympiques, les Américaines April Ross et Alix Kleinmann, les Suissesses ont retrouvé tout leur mordant. Dans ce match pour la troisième place, la paire helvétique n'a pas laissé la moindre chance aux Lettones Tina Graudina et Anastasia Kravchenka, battues en 2-7, 21-19, 21-15. Associées en 2016 après les JO de Rio, le binôme a décroché sa plus belle victoire aujourd'hui sur le sable japonais. Une victoire qui vient récompenser tous les efforts consentis ces dernières années. Les précisions d'Anouk Vergé-Després.
Je pense qu'on est une équipe qui veut, avec toutes les conséquences, à fond. Après, c'est clair qu'on a nos deux caractères, des caractères forts. Et il fallait beaucoup travailler pour avoir la même direction sur le terrain au même moment. Je pense qu'on a travaillé avec le coach mental, mais aussi physiquement, techniquement, pour arriver à vraiment obtenir un niveau qui progresse dans l'élite. Et ouais, je suis super fière de ça.
Des propos recueillis par nos confrères de la RTS. Cette médaille est donc la 13e remportée par la délégation suisse présente au JO de Tokyo. Il s'agit de la 10e à mettre au crédit de la gente féminine.
Sport féminin toujours, on va parler de golf avec la belle remontée du jour pour Alban Valenzuela.
Mais la Genevoise a réussi une belle performance à l'occasion de la 3e journée de compétition. Avec une carte de 67, la Suissesse est passée de la 27e à la 16e place. Elle ne compte plus que 4 coups de retard sur le podium provisoire avant l'ultime tour prévu demain. De son côté, la vaudoise Kim Metro a perdu du terrain et occupe désormais le 48e rang.
Et en athlétisme, le relais suisse féminin du 4x100 mètres espère vivre son jour de gloire. Ça sera aujourd'hui.
Mais oui, Ricarda Dice, Ayla Del Ponte, Mujinga Kambunji et Salomé Cora ont rendez-vous à 15h30 heure suisse pour la finale de la spécialité dans le stade olympique de Tokyo. Quatrième des mondiaux il y a 2 ans à Doha, les Helvètes veulent faire encore mieux aux JO et la course s'annonce très ouverte derrière les intouchables jamaïcaines. Pour les 4 sprinteuses suisses, cette épreuve est aussi l'aboutissement d'un projet de longue date, un projet auquel a contribué l'entraîneur de ce relais du 4x100 mètres, Raphaël Menachon.
J'ai repris moi le relais en 2017. On a fait une réunion pour mettre en place des objectifs pour le futur et j'ai toujours dit que l'objectif c'était d'aller chercher un podium aux Jeux Olympiques. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2017 et puis aujourd'hui en 2021. Alors plutôt de façon favorable puisque les filles ont continué à améliorer leur niveau. Donc non, l'ambition était là depuis de nombreuses années et maintenant on va essayer de le concrétiser sur la piste.
Mais des propos recueillis par notre envoyé spécial aux Jeux Olympiques, Émilie Momentaler. Et on vous le rappelle, cette finale du 4x100 mètres féminin est donc prévue à 15h30 heure suisse.
Merci Julien Traxel pour ce point sur les 13 médailles suisses désormais. On notera que les cavaliers suisses entrent en lice aujourd'hui dans le concours de saut d'obstacle par équipe. On trouvera Martin Fuchs, Steve Gerda et Brian Balzinger qui seront engagés dans les qualifications. Peut-être des chances de médailles également.
De retour en Suisse où la course de montagne battra son plein ce week-end.
Et ouais, le calendrier sera particulièrement chargé demain dans les Alpes Helvétiques. Alors que Sierzina accueillera certains des meilleurs spécialistes de la planète. La Glacier 3000 Run se tiendra pour la 13e fois. Annulée l'an dernier à cause de la crise sanitaire, l'épreuve de 26 km entre Gstaad et le Seyrouge au sommet du glacier est de retour. Avec 800 inscriptions, la limite maximale établie par les organisateurs à cause de la situation sanitaire a été atteinte. La concurrence ne semble donc pas poser de problème à la Glacier 3000 Run. Les impressions de son patron, Bernard Channen.
C'est toujours un peu les mêmes années, ou c'est toujours là, chaque année un peu le même problème. Il y a tellement de courses de montagne en juillet, août, et notre fenêtre où on peut vraiment passer en sécurité à 3000 mètres, à travers d'un glacier, il est tellement petit qu'il y aura toujours des problèmes d'avoir une course la même date ou juste le week-end après ou avant. Et malheureusement, ça tombe sur Zierstinal, mais on voit que ça fonctionne bien chez nous. Je crois aussi chez eux, ils ont beaucoup d'inscrits et c'est malheureusement pas possible de changer.
Des propos recueillis par Julien Traxel. À noter que pour cette 13e édition de la Glacier 3000 Run, 3 départs différents seront donnés demain à Gstaad. Le premier est prévu sur les coups de 9h30.
Dernier volet aujourd'hui de notre série intitulée « Intsino au JO ».
Depuis le début des Jeux Olympiques de Tokyo, nous retrouvons chaque semaine Pierre Ducret. Il est directeur des opérations des JO pour le CIO, le Comité International Olympique. Ce Chablaisien de Vouvry nous livre à cette occasion son ressenti, ses impressions sur un événement sportif hors du commun. Et à quelques jours de la fin des JO, il est l'heure de dresser un premier bilan en compagnie de Pierre Ducret, Intsino au JO, avec Xavier Bourgeot, évidemment.
Salut Pierre.
Salut Xavier.
Alors, je te chope entre 12 séances que tu as sur place à Tokyo. On arrive gentiment au bout. J'aimerais dire, it's done, it's almost done, c'est presque fait. Alors, sans tirer un bilan général, mais si tu devais peut-être faire ressortir une image, une émotion, quelque chose qui t'a marqué sur cette édition, qu'est-ce que tu dirais ?
Moi, je dirais franchement, si je devais sortir une image, certainement une image de sport, parce que finalement, on est là pour ça. Je n'ai pas eu l'occasion, en tout cas à mon goût, d'aller assez sur les sites, mais j'ai eu la chance de voir surtout les nouvelles épreuves, les sports qui viennent à ces Jeux pour la première fois, le BMX freestyle, un peu de skateboard et un peu d'escalade hier soir. Et je pense que si je dois retenir une chose, c'est vraiment ça.
Alors, tu le dis, de nouvelles disciplines qui amènent une nouvelle fraîcheur, quelque chose de nouveau dans ces JO, en plus durant une période particulière. Est-ce que pour toi, ces JO-là, avec ces sports qui sont intégrés, est-ce que ça va donner une autre dimension aux prochains JO, ou en tout cas aux réflexions que vous allez mener, au travail que vous allez mener, et les gens vont percevoir aussi peut-être les JO de manière différente?
Je pense que ces Jeux ont porté une dimension particulière. On a beaucoup travaillé avec les organisations internationales dans la définition des mesures sanitaires qu'on allait appliquer. Et on a beaucoup de gens ici qui ne sont pas forcément des fans de sport, mais plutôt des gens qui cherchent à comprendre comment on peut délivrer au jour d'aujourd'hui un événement de cette taille avec des gens de tous les pays de manière sécurisée. Et je pense qu'il y a un héritage qui sera assez marquant à ce niveau-là. On a développé beaucoup de nouveaux protocoles pour l'entrée dans le pays, pour la vie en communauté, de gens venant d'horizons différents. Donc, il y a un héritage vraiment à ce niveau-là. Il y a aussi, je pense, une volonté de percevoir ces Jeux comme, il a été souvent dit par notre président, la lumière au bout du tunnel, la possibilité pour le monde de se retrouver. C'est possible de faire ça de nouveau, de voyager de manière sécurisée. On a eu ici 11 000 athlètes qui ont vécu dans le même village pendant presque 3 semaines et un taux de positivité qui est quasiment inexistant, de 0,02%. Donc potentiellement l'un des endroits les plus protégés du monde. Et ça montre qu'on peut faire ça. Et je pense que ces Jeux, ils porteront un peu ce message d'espoir, au-delà évidemment de ce qu'ils peuvent porter habituellement comme rassemblement du monde et performances sportives. Mais je pense que le message est double. Et c'était un peu ce qu'on voulait aussi amener à travers ces Jeux.
Alors ça, c'est l'homme du CIO qui parle. Maintenant, j'aimerais entendre le Tsino, l'habitant de Vouvry, le gars qui a fait son chemin aussi. On l'a su, hein, c'est pas tes premiers Jeux Olympiques. Mais toi, à titre humain, qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? Parce que voilà, ça fait maintenant 3 mois que t'es sur place, quasiment en vase clos, quelque part. Qu'est-ce que tu retiens humainement de cette aventure?
Tellement de choses. C'est un peu ça aussi la beauté de ce métier, c'est que tu travailles au quotidien avec des équipes qui ont une culture totalement différente de la tienne, des gouvernements nationaux, des autorités locales. Et ça te force finalement à aller chercher des ressources peut-être que tu ne sais même pas que tu as pour essayer de résoudre des problèmes qui parfois pour les autorités locales ou pour le comité d'organisation paraissent insurmontables. Et c'est vrai qu'il faut vraiment mettre ses tripes sur la table souvent, surtout dans un cadre comme celui d'aujourd'hui, pour trouver des solutions et travailler ensemble. Et je pense que ce que je ressors toujours quand je repars, c'est ces moments de collaboration, des situations très difficiles parfois où aucune solution n'est visible et le ton peut monter, les conversations être très, très dures, mais où finalement le respect mutuel, la volonté de faire des Jeux Olympiques une réussite pour le pays, pour le mouvement olympique, et toujours la finalité. Donc oui, le Tsino, comme tu dis, qui est dans les Jeux Olympiques, il a avant tout à cœur de faire son métier correctement, de pouvoir rentrer chez lui, dans son valet, aussi souvent qu'il peut, avec le sentiment du devoir accompli. C'est un peu ça qui m'habite finalement, et puis de me dire, voilà, on a pu faire des jeux sécurisés, des jeux qui font du sens au jour d'aujourd'hui, permettre aux athlètes de concourir, et s'il y a une petite fierté, c'est celle-là peut-être, d'avoir pu contribuer à ça avec les équipes ici, et puis de pouvoir se dire, job well done, maintenant on peut rentrer et puis retrouver notre vie de tous les jours.
Très bien, en tout cas c'est tout ce que je peux te souhaiter. Merci infiniment Pierre d'avoir pris le temps durant tous ces Jeux Olympiques pour nous livrer un petit peu tes impressions. On a beaucoup appris, on a beaucoup partagé et je te remercie infiniment et je me réjouis de te retrouver très vite. Donc bye bye, bonne fin de jeu et puis je le rappelle, donc tu es directeur des opérations pour les JO, pour le CIO. Merci Pierre.
Merci Xavier, c'était un plaisir de partager ce petit bout de chemin avec toi. Et puis, ben ouais, effectivement, on se retrouve bientôt autour d'une bière parce que ici c'est pas permis, mais chez nous, je crois que c'est possible.
Alors, on prend rendez-vous. Bon retour, bye bye.
Salut, merci.
Xavier Bourgeot et Pierre Ducret de Tokyo qui iront donc prendre une bière ensemble. Et nous, on pourra prendre une bière à Morgin à partir de 16h cet après-midi. Non, après le journal, je serai en direct de Morgin avec le reste de l'équipe.
C'est ça. Merci Joël. Du coup, on vous laisse vous reposer jusqu'à 16h.
Merci. Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec le Croution et son nouveau spectacle Le Grand Bazar, la revue qui pique. Du 3 septembre au 2 octobre, Bouvray sous chapiteau, croution.ch.
On devrait passer un temps bien ensoleillé cet après-midi selon Météo Suisse, avec tout de même des voiles nuageux. Pour les températures, on attend jusqu'à 23 en pleine, 19 à 1000 mètres et 12 à 2000. Pour ce week-end, la matinée de samedi sera encore sèche et assez ensoleillée avant une dégradation orageuse dès l'après-midi. Les orages pourraient être même parfois violents avec de gros cumuls de pluie, toujours selon Météo Suisse. Enfin, pour dimanche, le temps sera assez nuageux et plus frais avec les dernières averses jusqu'en milieu d'après-midi environ. Le soleil devrait ensuite revenir en plaine, mais plus difficilement en montagne. Pour samedi, par contre, Météo Suisse a émis une alerte de degré 2 pour de fortes précipitations entre midi et minuit. Concernant les températures de ce week-end, on naviguera entre 13 et 21 en pleine, entre 11 et 20 à 1000 mètres et entre 8 et 12 à 2000. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.